keep on rolling, baby.
Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h45. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir de jaser avec Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice sous l'ère Charest. Il est avec nous pour parler d'actualité, parler de dossiers aussi, de SAAC, d'IVAC, de CNSST quand c'est le cas. Maître Bellemare, bonsoir!
Bon. Allô, comment ça va?
Ah, il fait froid, il fait froid. J'ai passé la fin de semaine à Rimouski. Je pensais pas qu'au Québec, là, il y avait un endroit plus froid qu'à Rimouski. Avec le vent, là, c'était de faire moins 30 000 avec le vent en fin de semaine. Petit tournoi de hockey pour mon plus vieux. C'était une super de belle expérience, mais c'est ça, il faisait froid. J'avais hâte de revenir chez nous dans mes petoufles.
Ouais, Rimouski, souvent, par rapport à Québec, c'est plus un peu moins neigeux, mais un peu plus froid.
Ouais.
Parce qu'il y a du vent, hein? Il y a le vent du fleuve, et mais d'habitude, il y a moins de neige un peu qu'à Québec, je sais pas, as-tu remarqué?
Il y avait un petit peu plus de neige qu'à Québec. Montréal, c'est encore assez tranquille pour ce qui est de la neige, mais c'est ça, Montréal, on dirait qu'on est à l'abri du vent, ce qui fait en sorte des fois qu'on a comme 2-3 degrés de plus. Québec, ça dépend, ça dépend. J'ai l'impression que quand il neige à Québec, il neige longtemps. C'est pas comme quand on est dans le sud, là, il y a des orages, des fois, ça dure 7-8 minutes, c'est intense, on dirait que tout va arracher, puis après ça, ben beau ciel étoilé sans problème. Québec, quand il neige, là, t'as l'impression que le nuage veut pas quitter le coin.
Mm-hmm. Oui, effectivement. On est gâtés là-dessus pour les fins de semaine quand tu fais du ski, mais si tu fais pas de ski puis c'est pas fin de semaine, c'est pas drôle.
Exact. On était en tournoi de hockey. C'était le deux tournois de hockey en ligne. Moi, là, la semaine dernière, c'était à Boisbriand. Cette semaine, hier, c'était à Rimouski. On était là 4 jours à Rimouski quand même. Les petits Beaucerons qui ont gagné, qui ont quasiment... toutes les équipes de Beauce ont bien compétitionné. Puis je pense qu'il y a 3 ou 4 équipes de la Beauce qui ont remporté les finales du tournoi. Donc, il se passe quelque chose en Beauce, Maître Bellemare. Il faudrait trouver qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau des Beaucerons? Ça fonctionne pas pire.
L'entrepreneuriat, l'économie, le chômage très bas, un peu face à la bouteille, par contre, non? Ça a changé, ça? Il y a eu un temps où il y avait des statistiques pas très bonnes sur la conduite.
C'est des bons fêtards, mais moi, je vous dirais qu'il se passe quelque chose en Beauce. L'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, mais pour ce qui est de nos jeunes, c'est des jeunes qui sont extrêmement dynamiques. J'ai eu la chance de visiter, Maître Bellemare, l'endroit où l'Océanique de Rimouski joue du hockey.
Ouais.
Et je peux vous dire qu'ils ont vraiment un bel amphithéâtre. Là. Mon gars, mon plus vieux, il a joué là, un match en fin de semaine. Puis j'ai fait le tour, là. Il était 6h30 du matin. Puis c'était de toute beauté voir ça. Je me suis assis sur le même banc que Sidney Crosby à l'époque. Là.
Est-ce qu'il y a un salon Crosby? Est-ce qu'il y a une poutine Crosby à Rimouski? Franchement, c'est vraiment le... Moi, je me souviens d'avoir vu un match des Remparts contre l'Océanique à l'époque où Crosby jouait pour l'Océanique. Et c'était, c'était plein. Le Colisée était plein. Dans le temps, c'était le Colisée.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a un salon Crosby? Est-ce qu'il y a une bière Crosby? Est-ce qu'il y a une référence, un drapeau, un chandail, je ne sais pas quoi?
J'ai été manger au restaurant chez eux, donc jeu de mots avec œuf. Et le propriétaire nous a accueillis, un homme hyper sympathique. Et là, quand il a vu mes gars, il a dit « Êtes-vous dans le tournoi de hockey? » Là, mes gars disent « Oh oui, on est dans le tournoi de hockey. » Et là, il a dit « Voulez-vous la même place où Sidney Crosby s'assoyait dans le temps quand il était pour l'Océanique de Rimouski? » Puis là, mes gars ont dit « Oui. » Ça a donné, je sais que c'est un hasard, Maître Bellemare, mais ça a donné que c'était la seule place qui était disponible dans le restaurant quand on est arrivé. Donc, on s'est assis, entre guillemets, à la même place où Sidney Crosby s'assoyait chaque matin pour déjeuner, selon le propriétaire du restaurant.
Hey, c'est bon. Mais ça, c'est extrêmement important pour des jeunes de voir que des athlètes renommés ont joué dans cette ville-là. Et je me souviens, moi, d'être allé d'un tournoi au Cap de la Madeleine avec mon fils. Dans le temps, il jouait Pee-Wee. Il y avait un tournoi à l'époque. Et Jean-Guy Talbot, qui est l'ancien vice-capitaine assistant capitaine du Canadien, qui a gagné 6 ou 7 Coupes Stanley, s'est pointé à l'aréna. Il est venu parler aux jeunes. Il a amené ses bagues de la Coupe Stanley. Ouais. On a pris des images de ça. Et ça, là, ça, dans les tournois, là, c'est extraordinaire. Et les jeunes vont se souvenir de ça toute leur vie.
Oh oui, puis comme je vous dis, c'est un bel amphithéâtre. Il n'y avait pas un chat. Fait que j'ai fait le tour au grand complet. J'ai essayé de rentrer dans le vestiaire des joueurs. Je me suis dit, je me ferais avertir au pire, mais tout était barré. Mais toute l'histoire de l'Océanique, les grands joueurs qui viennent de Rimouski, qui ont évolué dans la Ligue nationale de hockey, les Sidney Crosby de ce monde, il y a des belles grosses photos. Rimouski, c'est bien fait là, pour ce qui est des tournois de hockey. J'ai adoré, mais je vais vous dire, je salue tous les parents là, qui sont des hockey moms et des hockey dads. Ça fait mal sur le portefeuille, là, des petites fins de semaine dans les hôtels à 300$ la nuit, là, un genre de 600$ cash qu'on a à déplier pour dormir là. Puis on s'entend-tu qu'avec des enfants qui courent partout au travers, c'est pas le temps de se reposer. On n'est pas dans le sud, dans un 5 tatouages, je peux vous le dire.
Non, c'est ça. Hey, il n'y a pas Lafrenière aussi, numéro 13 des Rangers, premier choix repêchage il y a quelques années, qui a joué à l'Océanique.
Alexis Lafrenière, il était dessus.
Oui, il me semble qu'il vient de l'Océanique aussi. Pas mal sûr de ça. En tout cas, il y a quand même des gros noms qui sont passés par Rimouski.
Oui, vous avez raison. Alexis Lafrenière a évolué de 2017 jusqu'à 2020 pour l'Océanique de Rimouski. Quand même des belles saisons. Là. Première année, 80 points. Deuxième année, 105 points. Troisième année, 112 points. Puis ça, il est arrivé à 18 ans dans la Ligue nationale de hockey.
Oui. Alors, ils ont de la place pour faire des poutines et des milkshakes baptisé au nom des célébrités qui sont passées par Rimouski, quand même. Tu sais. Puis, alors, Crosby a certainement une bonne base de français. J'aimerais ça de temps en temps que les chroniqueurs sportifs posent quelques questions en français.
Ouais,
je suis convaincu que ce gars-là se débrouille assez bien en français.
Il s'exprime un peu en français. C'est pas hyper fluide, là, mais oui, il s'exprime un peu en français. Puis, ce que j'ai aimé, moi, en fin de semaine, c'est que mes gars ont gagné le premier match. Ben, en fait, mon plus vieux a gagné le premier match. Puis le deuxième, parce que mes gars, avec les joueurs de hockey de la Beauce, ils avaient un petit peu la tête enflée. Parce qu'au premier match, ils ont été, je pense qu'ils ont gagné 7-1 ou 8-1 de mémoire. Là. Fait qu'ils étaient persuadés, eux autres, qu'ils avaient gagné le tournoi. Puis au deuxième match, ils se sont fait planter. Puis là, ben, on a jasé un peu avec eux autres. Puis ils étaient très déçus d'avoir perdu. Mais ils ont su se ressaisir. Les défaites font partie de la carrière d'un joueur de hockey. Puis c'est important que nos jeunes soient conscients de ça puis qu'ils apprennent à dealer avec les défaites. Hein. J'ai l'impression qu'en tant que parents, on essaye le plus possible d'éviter les défaites à nos enfants. Mais la défaite fait partie de l'éducation de nos enfants. La vie, c'est ça. Hein. On gagne, des fois, on perd.
Le hockey, c'est le plus beau sport qu'on puisse imaginer pour des jeunes. Écoute, c'est le sport d'équipe, travailler avec d'autres, en solidarité, écouter les instructions. Il y a du cardio au plan physique. On va dehors, on va jouer dehors quand il fait beau. On gagne, on perd, on apprend à perdre. Et puis c'est très, très formateur. Moi, mes deux gars ont joué au hockey en mineur jusqu'à assez haut, là, jusqu'au niveau junior. Et je suis convaincu que ça a été une bonne partie de leur formation. Puis, c'est pas toi qui donnes cette éducation-là, c'est un coach, c'est une équipe. Donc, c'est pas toujours le père qui dit « fais ci, fais ça ». Tu sais, à un moment donné, c'est comme une forme d'autorité, une forme d'encadrement qui vient de l'extérieur de la famille. Et ça, c'est important pour le jeune de sentir qu'il y a des signaux qui viennent d'un peu partout.
Oui, puis dans le hockey, il y a des essais, il y a des erreurs, il y a des succès, il y a des défaites. Je trouve que c'est quand on est un parent, là, de faire vivre ces émotions-là, puis ces événements-là dans la vie de nos enfants, c'est très formateur. Puis tu sais, ils ont eu peur de perdre en finale. Là. Ils en parlaient juste avant, puis ils avaient peur. Mais je trouve ça correct. T'sais. C'était pas maladif, là, puis je trouve ça triste parce que dans un tournoi de hockey, bien, il y a un gagnant, puis il y a beaucoup de perdants. Mais de voir qu'ils ont été quand même gentils à la toute fin, qu'ils ont serré la main, qu'ils ont pris les joueurs de l'autre équipe... C'est mon gars, en fait, qui a pris le joueur de l'autre équipe par les épaules parce que je pense qu'il y en avait un qui avait de la peine de l'autre côté. J'ai trouvé ça vraiment beau. Là. C'était vraiment touchant. Là.
Ah, c'est comme il est comme son père. Il est très compatissant.
Ouais. Je vous dirais qu'il ressemble plus à sa mère. Ils ont plus les bons côtés de leur mère et l'intelligence de leur mère. Moi, c'est le petit côté gentil, drôle. attendrissant, peut-être, mon petit côté qu'ils ont obtenu, mais l'intelligence puis le charisme, puis pour ce qui est du talent, ça vient tout de leur mère. Maître Bellemare, on passe à nos sujets de la soirée, si vous le voulez bien. Pablo Rodriguez, on en a parlé la semaine passée, on en a parlé l'autre semaine d'avant. Pas le choix de vous dire que Québécois a réalisé encore une fois un coup de circuit ce matin. Vers les entours de 5 heures, il y a un article qui a été mis en ligne où Élections Canada, on apprend qu'Élections Canada cherche à comprendre pourquoi presque tous les employés liés au Parti libéral du Canada, dont certains travaillent aujourd'hui au Parti libéral du Québec, ont aidé Pablo Rodriguez dans sa campagne à la chefferie du Parti libéral du Québec. On cherche à comprendre pourquoi ces employés-là ont eu 1 000 $ de la part du Parti libéral du Québec. Et curieusement, je sais que ça se peut que ce soit un hasard, mais curieusement, parmi tous ceux qui ont reçu les fameux 1 000 $ forfaitaires, c'est ce qu'on nous a dit du côté du Parti libéral du Québec, eh bien, la plupart ont donné un 500 $ à la campagne de Pablo Rodriguez. Et c'est le cas de Geneviève Hinze, l'ex-chef de cabinet de Pablo Rodriguez à Ottawa, qui a travaillé tout dernièrement pour Marois Risky. Là, 3 semaines, elle a travaillé pour Marois Risky. C'est très, 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 très inquiétant tout ce qui se passe actuellement au Parti libéral du Québec. Puis je me demande comment ces gens-là vont faire pour s'en sortir. Je pense que... Parce que là, c'est la goutte, là, c'est la goutte chinoise. Là. Ça tombe directement dans le front de Pablo Rodriguez. Puis à un moment donné, ça va percer sa calotte crânienne. Puis à un moment donné, il va tout simplement mourir. On ne le souhaite pas. Là. Mais quand est-ce qu'ils vont le mettre dehors, Maître Bellemare?
Ouais, c'est ça. Parce que là, écoute... Ça ressemble à un fling-flang, là. Ça semble être l'expression utilisée par Mme Risky quand elle a parlé la dernière fois, en tout cas officiellement à M. Rodriguez. Mais effectivement, là, il y a comme d'abord, il y a toujours de l'argent. Tu sais, l'argent, c'est en politique, c'est toujours un problème. C'est toujours très, très mal vu quand il y a de l'argent. Donc là, il y a 1 000 $. Ces gens-là donnent 500 $ au parti. Donc, dans quelle mesure c'est pas une espèce de prête-nom, une contribution déguisée? Le parti paye pour pouvoir obtenir des gens du fédéral. Donc, il y a aussi le lien avec le Parti libéral du Canada. Alors, ce qui alimente la rumeur selon laquelle Rodriguez ne serait qu'une espèce d'émissaire venu d'Ottawa. Donc, pour tous ceux qui veulent maintenir l'indépendance du Parti libéral du Québec par rapport au fédéral, pour pouvoir revendiquer des droits puis des positions du Québec au sein d'un gouvernement libéral, fédéral éventuel. Tous ceux-là sont déçus. Alors, c'est un melting pot qui touche plusieurs cordes sensibles. Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce qu'on a acheté des votes? Est-ce qu'il y a eu de l'argent? Les brownies, tout ça. Alors, évidemment, ça commence à prendre forme un petit peu plus. Il y a des enquêteurs qui trouvent des choses. M. Rodriguez est obligé d'expliquer ça. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Il ne peut pas dire éternellement qu'il ne sait pas, parce que quand il dit qu'il ne sait pas, ben, ça veut dire qu'il ne s'occupe pas de sa campagne, ça veut dire qu'il n'est pas au courant. En même temps, c'est normal qu'il ne sache pas tout, mais là, c'est assez gros pour qu'il puisse répondre aux questions par rapport à ça. Mais tu as raison, ça va très mal pour lui, et ça va rester, parce qu'il y a des enquêtes un peu partout qui sont menées par le DGE, par la UPAC, semble-t-il. Il a lui-même mandaté le juge Jacques Fournier, ancien juge en chef de la Cour supérieure, pour évaluer la situation et regarder tout ça d'ici au mois de janvier 2026. Je ne pense pas que le juge Fournier puisse faire la lumière sur tout ça d'ici fin janvier 2026. Mais si on y a mis cette échéance-là, c'est que les libéraux veulent que ce soit en dessous du tapis au plus sacrant pour pouvoir affronter une année électorale déterminante à partir de février. Mais je n'ai pas l'impression que les réponses que le juge Fournier va nous donner, si jamais il nous en donne d'ici à la fin janvier, vont être satisfaisantes pour répondre à toutes les questions qui se posent actuellement, incluant celles qui viennent d'arriver ce matin dans l'actualité. Là.
Quand vous avez parlé en commission de la fameuse nomination des juges et tout ça, y a-t-il des libéraux de longue date qui vous ont dit « Marc, tu nuis au parti, tu devrais pas faire ça ». Avez-vous eu de l'influence indue là, de la part de gens qui voulaient que vous arrêtiez de dire la vérité?
Oui, effectivement, il y a des libéraux qui m'ont appelé, surtout à l'été 2010, parce que moi, mon témoignage avait pris place, je pense, le 24 août 2010.
Ouais.
Et dans l'été, là, à partir du moment où j'avais publiquement dit qu'il y avait eu des influences de collecteurs de fonds pour la nomination de juge, c'était le 12 avril 2010, si ma mémoire est fidèle. entre le mois d'avril et le mois d'août, il y a des libéraux qui m'ont appelé pour me dire essentiellement, tu as raison dans ce que tu dis, c'est vrai que c'est arrivé, mais ce n'est pas une chose à dire. Alors, c'est un petit peu ça le plan. C'est-à-dire que c'est une chose qui est arrivée, c'est une réalité, mais tu n'as pas d'affaire à le dire. Alors, voilà, c'était... sauf que moi, j'avais quitté le Parti libéral depuis 2004.
Ouais.
Ça faisait déjà 6 ans que j'étais libre de mes pensées et de mes paroles. Alors, évidemment que ça m'a pas influencé dans ma décision d'aller de l'avant et de dire qu'il y avait des collecteurs de fonds influents qui avaient eu un mot déterminant sur la nomination de certains juges avec l'aval et l'appui de Jean Charest, qui m'avait dit « Fais leur confiance, s'il t'a dit de faire ça, fais-le ». Alors, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marchait à l'époque. Il y a eu la commission Bastarache, donc, en 2010. Après ça, la commission Charbonneau, dans les années qui ont suivi, je pense que c'est en 2000. Le PQ était là de 2012 à 2014, alors
ça veut dire
2011.
Mois. Ouais.
2011, dans l'année suivante. Alors, et là, finalement, Charest est parti, Couillard est arrivé en 2014. Jusqu'en 2018. Et là, Rodriguez nous arrive avec des fling-fang pour l'accession à la chefferie du parti. Tout ça n'augure rien de bon parce que c'est toujours les mêmes idées qui flottent. Là. L'argent, qui paye pourquoi, des bénévoles, du personnel politique qui travaille, à qui on donne de l'argent, qui redonne de l'argent au parti. C'est tout le temps cette histoire-là. Les gens n'aiment pas ça. Et à partir du moment où la loi électorale prévoit que les contributions annuelles aux partis politiques du Québec ne doivent pas dépasser 100 $ par année et que c'est uniquement des personnes physiques qui peuvent les faire, on est dans des eaux où on lave plus blanc que blanc au Québec. Et là, à l'occasion d'une campagne à chefferie, tout ce qu'on entend, l'argent, les bénévoles, l'influence fédérale, évidemment, ça augure rien de bon pour Rodriguez. Puis, tu as raison, je me demande comment il va faire pour s'en sortir. Et ça se pourrait bien qu'il nous dise éventuellement qu'il va finalement quitter le bateau. Parce que s'il reste là, il y en a pour un an à essayer de trouver des réponses. Puis, sa gestion de crise jusqu'à maintenant était pitoyable. Manifestement, ce gars-là n'est pas capable de gérer une crise. Il a toujours été assez confortable dans le gouvernement Trudeau. Hein? Trudeau a été là de 2015 à 2024, 2025.
Mm-hmm.
Alors, pendant tout ce temps-là, M. Rodriguez flottait sur des horizons prometteurs et des eaux tranquilles, mais cette fois-ci, là, il y a pas mal plus de vagues.
Non, effectivement, puis c'est pas le leader qu'on nous avait décrit à partir du moment où il a pris les rênes du Parti libéral du Québec. Il est incapable de gérer cette crise-là, il semble pas écouter ses conseillers. Si vraiment les conseillers le conseillent puis qu'il écoute à la lettre, ben il faudrait mettre ses conseillers à la porte parce que toutes ces sorties ont été mauvaises. Donc, ce que vous me mentionnez, là, la pression que vous avez eue, pression indue de la part de libéraux qui vous appelaient en disant « Marc, ça ne devrait pas faire mal au parti comme ça », probablement ce que Mme Marois-Risky vit actuellement. Donc, elle reçoit des téléphones, on lui demande tout simplement d'arrêter ou de démissionner pour que la crise cesse. C'est probablement ça. Mettons
ouais,
qu'on émet des hypothèses.
Ben moi, j'avais démissionné, Yannick, au moment où la commission Bastarache a pris place en 2010. Ça faisait déjà 6 ans que j'étais parti.
Ouais.
Mme Risky, c'est différent parce qu'elle est encore députée.
Exact.
Elle vient à peine d'être, il y a quelques jours, d'être exclue du caucus, mais elle était encore députée. Elle était leader parlementaire. Elle était extrêmement visible. C'était très certainement la figure la plus visible et la plus appréciée du public et même de l'ensemble des parlementaires. C'était probablement une des meilleures parlementaires, et ce, depuis plusieurs années. Très caustique, très tenace, une bonne attitude, un bon comportement, un petit moment là, qui avait le combat à cœur et la loyauté aussi. Alors, c'est ça. C'est comme si... Moi, ça me fait penser beaucoup à quand Mme Freeman a décidé de quitter... son poste là, de ministre des Finances pour la chef, alors que Trudeau était encore en poste, c'était extrêmement dur parce que Mme Freeman était une femme forte dans le gouvernement Trudeau. Alors, c'est pas un petit backbencher qui décide de s'en aller ou qui décide de claquer à la porte. Là, c'est quand même quelqu'un de central dans le parti. Alors, Trudeau s'en est jamais relevé. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive à M. Rodriguez actuellement.
Ah, ce sera quoi la suite, Maître Bellemare, pour le Parti libéral du Québec? Ce sera un autre chef de transition? Est-ce qu'on pourrait remettre un genre de Marc Tanguay là, qui faisait quand même, somme toute, une bonne job? On s'ennuie de Marc Tanguay depuis quelques mois, je peux vous le dire, même à la station, là, même si c'est un gars avec qui on n'échangeait pas toujours sur les mêmes idées. Là. Parfois, c'était souvent des idées qui étaient contraires aux nôtres. C'était un gars qui était le fun à jaser. Est-ce que c'est un leader? Je suis pas sûr que c'était lui le leader tant attendu du Parti libéral du Québec, mais il faisait une belle job. T'sais.
Non, mais je pense que Méliard et M. Méliard et M. Blackburn devraient se tenir pas trop loin. Ils ont eu la bonne attitude jusqu'à maintenant de donner leur appui quand même au chef. Je pense que dans les circonstances, ce n'est pas le temps de tirer des roches. Mais je trouve que le body language, là, quand tu regardes à la télé et les photos, les images qu'on a de la députation, là, parce que M. Rodriguez n'est jamais seul quand il s'exprime publiquement, quand il parle aux journalistes. André Fortin... a l'air de sortir d'une campagne funéraire. Madame Setlacoui n'a pas moyen d'y arracher un sourire ou même une posture neutre. Marc Tanguay, c'est la même affaire. On sent que les députés sont écœurés, ils sont découragés, ils ne voient pas le bout et ils se retrouvent dans un parti qui est quand même l'opposition officielle, mais qui a eu quoi 500 quelques mille votes à la dernière élection et là, qu'il y en aurait peut-être 200, 300 000 actuellement. Et là, c'est les fêtes qui s'en viennent. Alors, entre la dinde et les attaquants, il va être question probablement de chez tous ceux qui s'intéressent à l'actualité de ce qui se passe au Parti libéral du Québec. Ils ne réussiraient pas à sortir de la crise pour Noël. Donc, pendant le temps des fêtes, les convictions vont se raffermir quant au fait que ce parti-là s'en va nulle part. Et j'ai l'impression que 2026 va être une année difficile. Mais si M. Rodriguez reste là, il va traîner les casseroles parce que là, je pense que le défi pour à peu près tous les journalistes et les chroniqueurs, c'est d'essayer de voir jusqu'à quel point ça va mal dans son parti.
Autre sujet que je voulais aborder avec vous. Les pilotes d'Air Transat se sont vus offrir une augmentation de salaire lors de la négociation de 59 %, ce qui ferait qu'un pilote émérite avec un bon nombre d'heures pourrait gagner à peu près 350 000 $ par année et cette offre-là n'aurait pas été acceptée. C'est ce qu'on mentionne du côté de Transat. Du côté du syndicat des pilotes, on mentionne que cette offre n'est jamais arrivée sur la table. Je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui ont signé avec Air Transat pour ce qui est des prochains jours qui sont extrêmement déçus. La moyenne des salaires au Québec, Maître Bellemare, c'est 44 500 $ à peu près, là, la moyenne des salaires au Québec. Je lisais en fin de semaine une mère de famille qui disait que ça faisait 4 ans qu'elle se ramassait des sous parce qu'elle avait juré à ses enfants qu'elle allait en voyage avec eux dans le sud avec leur papa. Et là, c'est des pilotes qui pourraient gagner 350 000 par année qui décident qu'ils font la grève. C'est atroce, ce type de grève-là. Là. C'est crève-cœur.
Bien, on sait, Yannick, que les conditions salariales ne sont pas toujours une garantie qu'il n'y aura pas de grève. Hein. On a vu avec la grève dans le transport en commun à Montréal, les chauffeurs, il n'y a pas longtemps, les conditions sont excellentes, les salaires sont là, les congés de maladie, les retraites, etc. Et tout le monde est gras dur. On a l'impression des fois que plus ils sont gâtés, plus les conditions sont bonnes, plus ils ont recours à la grève. Je ne sais pas si c'est comme... Post-Canada, c'est un petit peu la même affaire. Il n'y a personne au salaire minimum là-bas. Là. Moi, je regarde ça aller puis je me dis des fois, est-ce que c'est parce que les conditions de travail sont très bonnes, ils ont des bons salaires, ils ont des fonds de grève, ils sont capables de se permettre des arrêts de travail pendant un certain temps. Des fois, on a l'impression que l'accès à la grève est facilité par l'aisance financière. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, parce que quand tu gagnes 15$ ou 20$ de l'heure, c'est sûr que la grève, c'est beaucoup plus difficile pour toi. Alors, dans ce cas-ci, tu donnes un bel exemple. Les pilotes qui sont gâtés. Maintenant, Air Transat l'a eu dur. Depuis la pandémie, ils ont eu beaucoup de difficultés. C'est une compagnie qui en arrache. Ils ont des problèmes financiers. C'est pas acquis qu'ils vont rester éternellement. Pour les transporteurs aériens, c'est pas facile. Le prix du carburant, la compétition... les salaires, et là, il y a une grève, évidemment, juste avant les fêtes. Alors, c'est un drame pour les familles qui ont prévu des vacances, oui, C'est terrible parce que les gens ont pris des vacances pour pouvoir quitter. Le vol n'aura pas lieu, donc il va être déplacé. Là, ça va être encore de la chiare. On va leur donner des crédits financiers. Vous pouvez déplacer votre billet. Oui, mais là, comme tu dis, madame là, qui a prévu des vacances avec ses enfants, elle n'est pas libre de choisir ses vacances tout le temps. Puis le boss ne dira pas, c'est bien correct, tu n'as pas pu partir au mois de décembre, tu partiras en janvier ou en mars.
Exact.
Ce n'est pas si simple que ça parce que les horaires sont bookés, surtout l'hiver pour le sud avec Air Transat, les vols sont relativement pleins. Mais je pense aussi à ceux et celles qui sont pris là-bas, là, dans les destinations, là. Ceux qui sont pris à Cuba, ceux qui sont pris au Mexique, ceux qui sont pris en République, qui sont les destinations bien prisées par Air Transat. Eux autres, ils en arrachent encore plus parce qu'eux autres, ils sont pris dans un pays étranger, dans une langue qu'ils parlent à peu près pas, et doivent trouver refuge, doivent trouver transport, doivent trouver alimentation. Les enfants avec l'école, les problèmes de déplacement. Alors, pour les gens qui sont à l'extérieur, je pense que c'est encore pire parce qu'ils ne sont pas dans le confort de leur foyer, puis ils ne sont pas dans leur bocal, comme on dit.
Ouais.
Alors oui, c'est une catastrophe, puis c'est sûr que pour Air Transat, c'est pas bon. Maintenant, il y a une différence entre une grève et un vol qui part pas ou un problème mécanique. Tu sais, on a vu des compagnies concurrentes qui ont eu des problèmes au cours des dernières années, des vols en retard de 12 heures, des gens qui sont pognés dans l'avion pendant 3 heures et demie avant de sortir, du déglaçage qui se fait pas, des problèmes mécaniques. Ça nuit beaucoup à la réputation d'une compagnie. Davantage, je pense, parce que c'est une question d'organisation, une question de grève qui, elle, évidemment, relève beaucoup plus du syndicat que de la partie patronale. Alors, c'est sûr que c'est pas bon pour la compagnie Air Transat, mais en même temps, c'est pas aussi. On peut pas les blâmer de mauvaise foi comme dans un problème organisationnel ou un problème là, qui fait en sorte que les passagers sont pas déplacés au moment ou dans les conditions convenues au départ.
Je me pose cette question-là, mais alors c'est sûr que là, Air Transat, c'est une compagnie aérienne qu'on a au Québec, là, mais est-ce que les syndicats, à un moment donné, on va avoir une arme de plus contre ces syndicats-là? Je ne sais pas, moi. Quelqu'un qui pourrait dire, écoutez, on regarde la capacité de payer de l'employeur, qu'il soit public ou privé, on regarde la capacité de payer de l'employeur et c'est impossible de pouvoir vous donner ça. Puis de pouvoir en tirer un certain profit par la suite pour cette entreprise-là. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est un syndicat américain qui s'occupe des pilotes d'Air Transat, là, et ce syndicat américain-là a pour objectif d'en donner le plus possible à leurs clients, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand ça va jusqu'à faire fermer une entreprise, bien, de belle mort, c'est une très mauvaise chose, là. Puis c'est ce que le syndicat qui s'occupe de nos pilotes d'Air Transat font, ce qui se fout éperdument de la capacité de payer de l'employeur. Eux disent, ben regarde, le salaire des pilotes aux États-Unis, le salaire des pilotes dans l'Ouest canadien, c'est ça. Ben nos pilotes méritent telle affaire. Mais si l'entreprise n'a pas les moyens de le payer, mais ben, de belle mort, c'est quoi? On la ferme?
Oui, c'est ça. Et la capacité de payer d'une entreprise privée comme Air Transat, parce que c'est purement privé, est évidemment un élément à considérer parce que l'employeur, s'il veut rester en poste, il doit augmenter ses prix. S'il veut garder une marge de profit respectable qui fait qu'il reste, parce que s'il n'y a pas de profit, il ne restera pas et il n'y a pas d'intérêt. Donc, il peut augmenter ses prix. À ce moment-là, il devient moins concurrentiel par rapport au service qu'il donne. Et Air Transat offre généralement une bonne liste de prix. C'est assez concurrentiel si on regarde avec les autres transporteurs, mais il peut peut-être perdre cet avantage-là si, évidemment, le syndicat est trop gourmand et que les conditions sont signées à des conditions auxquelles Air Transat ne peut pas faire face sans augmenter sensiblement ses prix ou en diminuant sensiblement ses services. Alors, on voit que les transporteurs sont obligés de faire attention par rapport au prix. Moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion avec Air Transat, ça m'a coûté 110 $ pour une valise trop pesante. Alors, ils essayent de trouver toutes sortes de façons d'aller chercher de l'argent un peu plus et ça pourrait s'aggraver au fil du temps, mais tu as raison. Et dans les services publics, c'est un petit peu la même chose aussi. On se fout éperdument de la capacité de payer. Dans les services, dans les garderies, dans les hôpitaux, dans les transports publics, on voit que les syndicats n'ont aucune considération par rapport à la capacité de payer. Ils s'en foutent, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est s'occuper de leurs membres, point. Mais je pense qu'ils devraient aussi considérer la capacité de payer de l'employeur. Mais ça, c'est un peu rêve en couleur.
Parce que c'est la même chose pour le public aussi. Mais prenons l'autre entreprise, là, c'est Post Canada, même affaire. Je veux dire, c'est que Post Canada, ils font pas d'argent nécessairement. Là. Donc là,
c'est... Non, ils en perdent. Ils sont dans le trou solide. Là.
Exact. C'est la même chose pour ce qui est d'Air Transat. Je regardais les pertes financières. C'est au-delà du 100 millions de dollars. Je sais que Pierre-Carl Péladeau est actionnaire autour de 10 % de cette entreprise-là, Air Transat. Puis il s'est proposé en tant que médiateur.
Médiateur.
Mais ouais. Là, je veux dire, l'entreprise est déficitaire. Puis les pilotes en demandent encore plus. Et ce que les experts mentionnaient en fin de semaine, si je ne me trompe pas, c'est dans la presse que j'ai lu ça, c'est que ce serait plus avantageux, même si Air Transat est déficitaire, ce serait plus avantageux pour Air Transat de donner un salaire comparatif à leurs pilotes que de laisser leurs pilotes faire la grève.
Ouais.
Donc là, bon. J'ai hâte de voir quel genre de décisions qui seront prises. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelques voyages qui ont été cancellés pour le 10 jusqu'à maintenant. C'est ce que j'ai su aujourd'hui. À savoir s'il y aura du développement ce soir ou pendant la nuit ou demain. Ça, c'est une autre histoire. Il faut suivre l'actualité en temps réel à ce moment-là. Mais c'est triste.
Oui, c'est ça. Mais c'est triste pour tout le monde. Puis effectivement, les petits moments, les petits papas, les familles qui voulaient voyager en famille, puis il y en a de plus en plus qui partent comme ça au début décembre pour la simple et bonne raison que les billets sont encore accessibles. C'est avant les fêtes, ça te permet de quand même de passer ton Noël en famille, de revenir au Québec pour les vacances de Noël. Donc, le mois de décembre, c'est un mois intéressant. Il fait beau dans le sud. Alors, les gens voient leur projet complètement compromis. Et humainement parlant, c'est sûr que c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Puis on a le championnat des grèves. On le sait, le transport en commun, les CPE, les hôpitaux, les écoles, les transporteurs, Post-Canada, j'en reviens pas. Là. Par rapport à il y a 10-15 ans, y a-tu un moment où il n'y a pas de grève nulle part? Je pense que c'est quelques jours dans l'année. 2025 aurait été vraiment le carrousel des grèves.
On est les champions des grèves au Québec. C'est pas un beau podium. Maître Bellemare, on va faire une courte pause si vous désirez bien. On invite les auditeurs à vous rejoindre pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. C'est bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Radio! Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça parle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi. Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parlée en semaine.
Le temps des fêtes approche et vous cherchez un moyen d'aider les gens dans le besoin? Certaines familles ou personnes vulnérables peinent à maintenir une condition de vie acceptable. Noël s'annonce plus difficile pour certains. En cette période d'amour et de partage, rendez-leur un peu de dignité en donnant à la guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Rendez-vous à faire-la-différence.ca pour un don en ligne ou passez à l'épicerie près de chez vous pour remettre des denrées à nos bénévoles. Cette année, faites la différence.
Si tu vas à l'événement de réduction d'inventaire d'équipements neufs de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, toi aussi, tu pourrais siffler en travaillant.
Méga promo des fêtes chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi. Vous êtes déjà un client de la marque Mitsubishi? En décembre, on vous offre un rabais fidélité de 1 500 $ ou un rabais de taux à 1 % à l'achat ou à la location de votre prochain véhicule. Passez chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi.
Cette année, offrez l'expérience Omerta à Lac-Beauport. Omerta, c'est le seul salon d'esthétique et de médico-esthétique pour hommes à Québec qui offre aussi un service de barbier. Omerta, c'est l'intimité, la discrétion et le savoir-faire. Prenez rendez-vous dès maintenant. OmertaSalon.com.
Cet hiver, viens vivre le plus grand événement de plein air hivernal au Canada. Le Pentathlon des neiges Sun Life, ça se passe du 14 au 22 février sur les mythiques plaines d'Abraham. Trouve ton défi et inscris-toi sur lepentathlondesneiges.com.
Pour un vrai buffet de Noël, pensez à Buffet 7000. Trouvez-y des repas traditionnels et réconfortants. Sandwich pas de croûte, salade de macaroni, tourtière, dinde, bref, tout ce qu'on aime pour les fêtes. Buffet 7000, le goût des traditions à prix compétitif.
Mon père dit que les nouveaux rayés de Kaleido sont rendus full flexibles. Il adore économiser des sous pour mon avenir, comme il veut, quand il veut. Fait qu'il risque d'adorer mon idée de ranger ma chambre, quand je veux et comme je veux. Merci Kaleido, l'épargne est-tu qui en fait plus?
En cette période des fêtes, Motivaction Jeunesse célèbre ce qui compte le plus, notre jeunesse. Chaque jour, Moti crée des moments qui changent des trajectoires. Cet hiver, faites équipe avec nous pour offrir des expériences positives. Chaque don compte. Joyeuses fêtes et merci de votre générosité.
La Fondation de l'Église de Sainte-Thérèse de Lisieux, située à Québec, soutient les activités pastorales et veille au maintien de l'Église. Ensemble, veillons à conserver le patrimoine religieux québécois. En cette période des fêtes, soyez généreux. La Fondation vous souhaite de joyeuses fêtes. PetiteThérèse.org.
Pour le réveillon, recevez à la Bergeron. Utilisez le Louis Cyr, le Fin Renard ou le Petit Bonheur pour cuisiner des recettes simples et goûteuses dont tout le monde raffole. Pour des soirées fromagées et gratinées, visitez fromage avec un S, bergeron.com.
Vas-y, je t'écoute. Bravo, bravo, ma Charlotte. Ça paraît que t'as pratiqué une vraie virtuose. Ton avenir est assuré.
À tout âge, on a besoin d'être rassuré. Et quand l'assurance vie santé et invalidité de Desjardins Assurances protège ce qu'on a de plus précieux, ça aussi, c'est rassurant.
Le temps manque pour votre magasinage de Noël? Visitez coiffree.com et réglez vos cadeaux en un rien de temps. Nos plus beaux coffrets cadeaux sont à 20 % de rabais jusqu'au 23 décembre. Trouvez le cadeau idéal pour votre ado, votre blonde ou votre chum. coiffree.com.
Un salon de coiffure unisexe sans rendez-vous, ça existe-tu encore?
Oui, madame. Le Salon Jean-Pierre est là pour vous 6 jours sur 7. Pour une coupe ou une taille de barbe, nos coiffeuses et barbiers sont à votre service. Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. Du 8 au 14 décembre, chez Matériaux Audet Timbermart, à l'achat d'un souffleur de marque DeWalt, choisissez un produit gratuit parmi quatre essentiels. Ponceuse, aspirateur, scie circulaire ou outil oscillant. Quantité limitée. Détails au matériauxaudet.ca.
En ce temps des fêtes, toute l'équipe du domaine Lac Labbé vous souhaite de merveilleuses célébrations. Venez découvrir nos chalets locatifs au cœur d'un domaine privé exceptionnel. Domaine Lac Labbé. Vivez pleinement la nature. Pour plus d'informations, visitez domainelaclabbé.com ou trouvez-nous sur Facebook.
En cette période des fêtes, les Bleuets du Vircrêpe remercient chaleureusement sa clientèle et souhaitent douceur et réconfort aux familles éprouvées par la maladie. Offrez un peu de bonheur local avec nos ensembles cadeaux disponibles en boutique du vendredi au dimanche jusqu'au 21 décembre. Les Bleuets du Vircrêpe.com.
L'éducation collégiale à taille humaine et le sport, ça se vit au campus Notre-Dame-de-Foy, situé aux portes de Québec et de Portneuf. Le CNDF vous offre un environnement où l'on développe son plein potentiel en vue d'une carrière enrichissante. Toute l'équipe passionnée du CNDF vous souhaite de joyeuses fêtes.
Vos cadeaux de Noël cette année, c'est Passe-temps 3000. Téléguidé, jeux de société, pistes de course et plus de 7000 casse-têtes en inventaire. Le seul endroit pour magasiner, c'est Passe-temps 3000. Passe-temps3000.com et au 445 rue Soumande.
Faites le tour du monde dans le plus grand parc de type Legoland en Amérique, Ludovica Miniland. Plus de 3000 bâtiments et monuments à découvrir dans un panorama époustouflant que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Seul ou en famille, prenez la route de la découverte à Laurier, Québec. Ludovica.ca.
Passez l'électrique sans compromis avec la IONIQ 6 2025. Jusqu'à 580 km d'autonomie. Pendant le boni des fêtes Hyundai, obtenez 11 000 $ de rabais sur la IONIQ 6 2025 en location à 110 $ par semaine, 24 mois, léger comptant. Chez les Sarah Hyundai, boulevard Louis XIV.
Pour les fêtes, offrez le Spa des Neiges en cadeau. Avec tout achat d'un certificat cadeau d'une valeur de 150 $ ou plus, obtenez un accès au bain gratuitement après 16 heures. Profitez également des soins de massothérapie et d'esthétique ouverts 7 jours sur 7 sur réservation. Détails au spadesneiges.ca.
Le complexe de tennis Saint-Augustin commence la nouvelle année en offrant 5 terrains de tennis et 4 nouveaux terrains dédiés seulement au pickleball. Devenez membre tennis et pickleball pour 125 $ par année et 95 $ pour le pickleball. Pour information, info@tennis-sa.com.
Qu'on en commun, un entrepreneur, quelqu'un qui a un grand terrain, puis un agriculteur? Ben c'est tout du monde qui aime ça siffler en travaillant fort. Et pour travailler fort, ça te prend des équipements à la hauteur de tes attentes. Ça tombe bien. JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, tient actuellement un événement de réduction d'inventaire neuf et d'équipements usagés. Ils ont toutes les marques. Puis t'as aucune pression parce que l'événement dure jusqu'au 31 décembre. Puis à minuit, on souhaite bonne année parce que l'année qui vient de passer est déjà usagée. Pour plus de détails, va sur jldlagu.com.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock? Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, savez-vous quoi? Le gouvernement du Québec, est-ce que c'est un bon employeur? Parce que là, on veut obliger des fonctionnaires à retourner au bureau, travailler en présentiel. Et je peux vous dire que les fonctionnaires du gouvernement du Québec sont pas heureux de ça. Ils considéraient le travail à la maison, le télétravail, comme acquis. Et finalement, c'est pas ça qui va arriver. On demande à nos fonctionnaires de revenir au bureau. Est-ce qu'un employeur a le droit de retirer un acquis, quelque chose que les employés considèrent comme un acquis du jour au lendemain?
Si ça a été conventionné, si ça a été écrit dans une loi, un décret ou une convention collective, tu peux pas y toucher pendant le temps que la convention collective existe. Si c'est un privilège qui a été accordé à cause de conditions particulières liées au transport, par exemple dans la région de Québec, c'est sûr que le fait de pouvoir opérer en télétravail a eu un effet sur la décision du gouvernement de permettre le télétravail. La pandémie, ça a été la même chose, mais c'est pas un acquis, non. Il y a rien dans la loi sur les normes minimales du travail ou dans les décrets ou les conventions collectives de tel, à ma connaissance.
Parce que je comprends certains employés du gouvernement du Québec d'être déçus. Si ça fait un an que tu travailles là, si ça fait deux ans que tu travailles là, puis quand on t'a embauché, on t'a dit, nous, c'est du télétravail qu'on t'offre, puis ça fait ton affaire. OK, tu as signé avec le gouvernement du Québec pour ça, parce que tu avais le droit de faire du télétravail. Et là, du jour au lendemain, on veut t'en enlever un peu. Je comprends les gens d'être déçus, mais depuis la pandémie, la présence obligatoire au bureau était limitée à seulement deux jours par semaine. Et le restant du temps, ça se déroulait généralement sur Teams. Et malgré les avantages, le gouvernement québécois s'est aperçu que le télétravail avait entraîné, Maître Bellemare, une hausse de 24 % d'absentéisme depuis 2022-2023. Ça veut dire qu'à chaque jour, il y avait 4300 personnes qui ne se présentaient pas au boulot pour des causes de maladie. Incroyable quand même, une personne sur quatre.
Mais pourquoi ils ne se présentent pas? Ils veulent prendre des congés de maladie les jours où ils sont supposés se présenter au bureau, par exemple.
Exact.
Moi, c'est un peu ça que j'ai compris. Il y a des absences qui représentent une petite somme de 238 millions annuellement. Alors, qui paye pour ça? C'est toi puis moi, évidemment, les naïfs que nous sommes, qui payons pour tout ça. Et évidemment, non seulement ça coûte de l'argent, parce que les congés, les absences coûtent de l'argent, mais pour un service qui n'est pas donné. Alors là, tu appelles... à Revenu Québec, t'appelles à la CNESST, t'appelles au ministère des Transports, t'appelles... Puis là, il n'y a pas de monde. Ça ne répond pas parce qu'ils ont un problème de ressources. Alors, écoute, moi, je pense que le télétravail, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais à un moment donné, il faut que les employés se retrouvent ensemble dans un milieu de travail. Il y a des échanges, il y a des relations qui se développent, des relations personnelles, des relations professionnelles. La qualité du travail, la supervision et l'assurance aussi pour le patron que la prestation de travail est réellement donnée et que la personne est vraiment à son affaire à 100 % puis qu'elle n'est pas en train de répondre au téléphone pendant que les enfants sont dans la piscine, tu sais, comme on l'a vu dans certains cas pendant la pandémie. Moi, je me souviens d'avoir appelé des représentants de certains services gouvernementaux puis d'entendre les splish-plash en arrière, là, tu sais, les enfants qui se baignaient. Donc, madame surveillait ses enfants dans la piscine. Ça m'est arrivé personnellement de vivre ça. C'est assez peu sérieux. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais il faut s'assurer aussi que la prestation de travail se donne. Puis au travail, on est au travail, puis on est concentré sur ce qu'on fait, puis on donne un meilleur service. Alors là, c'est quand même curieux de voir qu'il y a des absences ajoutées à partir du moment où l'employeur demande de rentrer au bureau. Il y a peut-être des sanctions disciplinaires qui vont devoir être données par rapport à ça ou d'une vérification très, très poussée du caractère du rapport médical produit ou de l'absence. En tout cas, écoute, le gouvernement, on le sait, ça nous coûte un bras. On n'a pas l'impression toujours d'en avoir pour notre argent, mais on a un bel exemple ici.
Est-ce que le gouvernement doit être un bon citoyen corporatif, c'est-à-dire de faire rouler l'économie avec ses fonctionnaires? Parce que c'est souvent ce qu'on nous a mentionné. Quand j'ai parlé de ce sujet-là, le matin, nous, on fait un petit tour de table, puis on parlait justement du besoin du gouvernement d'avoir des fonctionnaires qui sont à l'intérieur des bureaux. Et ce qui arrivait souvent dans la discussion, c'est... Bien, c'est parce qu'autour des bureaux des fonctionnaires, bien, il y a des restaurants, il y a des dépanneurs, il y a des essenceries, il y a des magasins de vêtements et tout ça. Et à partir du moment où on retire ces fonctionnaires-là de cet endroit-là, bien, le quartier, mettons qu'il y a un peu plus de misère à bien fonctionner. Là. Il y a moins de monde dans les restos, il y a moins de monde dans les cafés, il y a moins de monde dans les bars pour ce qui est du 5 à 7. Est-ce que c'est une tâche du gouvernement de faire rouler son économie avec ses fonctionnaires?
Bien, je pense que ça doit rentrer en ligne de compte. Je suis convaincu que quand les gouvernements, les ministres, les députés se réunissent, les hauts fonctionnaires, les sous-ministres, ils regardent ça aussi. Ils regardent autour, par exemple, du complexe G à Québec, ou ils regardent du côté de Tour de la Bourse à Montréal, là où il y a au complexe Guy Favreau pour ce qui est du fédéral à Montréal. Donc, les édifices gouvernementaux où il y a des édifices publics, où il y a des services gouvernementaux, le complexe des Jardins aussi. C'est bien sûr que si tout le monde travaille en télétravail, ça a un effet important sur les hôtels, les restaurants, les transports. Et ça vient, à la limite, là, diminuer les revenus de l'ensemble de la communauté et l'ensemble des entreprises qui sont autour du site et qui tirent profit du fait qu'il y a plus de déplacements ou plus de fréquentation. Alors, je suis convaincu qu'ils en tiennent compte. Dans quelle mesure... C'est un argument qu'ils vont donner publiquement. Je ne pense pas. Peut-être que les députés sont davantage soucieux de ça parce qu'ils ont probablement des plaintes. Je ne suis pas sûr qu'au niveau des ministres et des sous-ministères, que c'est vraiment quelque chose qui doit être abordé de façon précise. Mais Mme Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor, elle, son argument, c'est de dire qu'il y a 35 % des employés de la fonction publique qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. Et ce qu'elle dit pour favoriser le retour dans le milieu de travail en présentiel plutôt qu'en virtuel, c'est qu'elle dit que c'est important à un moment donné pour s'imprégner de la culture, pour apprendre des autres, d'être là, de les voir, pas à travers un écran, mais de prendre un café, jaser au bureau, expliquer les formules, expliquer les stratégies, faire des réunions en personne. C'est vrai que c'est différent.
Ouais.
Si derrière ton écran, tu es un peu moins concentré, souvent, tu vas faire deux choses en même temps. Les gens prennent leur texto en même temps qu'ils parlent sur l'ordinateur. Alors, ce n'est pas le même sérieux et ce n'est pas la même assiduité. Alors, à la limite, tu ne sais pas ce que les gens font. Hein. Ils peuvent, à la limite, écouter un bon film pendant qu'il y a une réunion plate, là, où il y a 14 personnes sur l'écran. Là. Puis, il n'y a personne qui le sait, personne qui va s'en douter. Faire ta liste d'épicerie, prendre tes textos, il n'y a personne qui sait ça. Mais en personne, c'est un petit peu plus gênant. Et c'est la raison pour laquelle, un petit peu comme dans les écoles, on a tous compris que les enfants étaient davantage concentrés en présentiel, dans une classe, avec un professeur qui parle, que quand ils sont sur leur cellulaire en même temps que le professeur parle. Donc, la distraction est éliminée dans le présentiel.
Mm-hmm.
Les gens sont sur place. Et ils sont obligés de se concentrer sur le travail, puis ils offrent une meilleure prestation puis une meilleure productivité.
Mais c'est clair.
Madame Duranceau l'a dit, puis elle a raison là-dessus, puis je pense que c'est l'argument le plus important. Puis comme je le disais tantôt, à moins que ce soit dans une convention collective ou dans un décret ou dans une loi, que le télétravail constitue un droit, bien c'est un privilège. C'est pas parce qu'au moment où tu rentres au service d'un employeur que tu as tel bureau, que tu as tel outil, que tu as tel collègue de travail, que ça doit rester immuable et que ça devient une condition de travail inflexible. L'employeur a le droit de toucher à tout. Son droit de gérance est général, sauf lorsqu'il est limité par un engagement ferme ou par un décret ou par un règlement ou par une loi. Ce qui n'est pas le cas ici.
Non. Puis là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Souvenez-vous, dans le cas, je pense que c'était dans le temps de la COVID vers la fin, là, on avait découvert chez Hydro-Québec qu'il y avait des employés qui avaient acheté un logiciel qui faisait en sorte que la souris brassait pour dire à l'ordinateur d'Hydro-Québec que l'employé était bel et bien devant son ordinateur à la maison. Et ce qu'Hydro-Québec s'est rendu compte, c'est qu'il y a des employés, il y avait énormément d'employés qui s'étaient dotés de ce logiciel-là pour faire bouger la souris sur l'écran. Donc, ils se sont dotés d'un détecteur de logiciel qui fait bouger la souris. C'est incroyable, les gens, à quel point ils veulent être payés, ils veulent être bien rémunérés, travailler pour une belle grosse entreprise. Mais il y a des gens qui vont toujours tenter de profiter de la situation pour être payés à rien faire. Puis peut-être que c'est ça, en bout de ligne, c'est que les fonctionnaires du gouvernement du Québec qui sont à la maison, ils n'étaient peut-être pas aussi proactifs, puis ils n'étaient peut-être pas aussi travaillants que le syndicat voulait le mentionner.
Oui, puis les employeurs dans le privé ont de moins en moins de virtuels. Ils ont compris ça, ils veulent avoir les employés pas trop loin, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent que les gens respectent un horaire de travail. C'est sûr qu'à la faveur de la pandémie, on a un petit peu libéralisé le travail à distance, c'est correct. Et je pense que c'est une bonne chose que ça demeure. Moi-même, dans mon travail, je fais beaucoup de virtuel. J'ai des causes que je plaide en virtuel, ce qui facilite le travail, ce qui permet de régler plus de causes, d'éviter des remises de causes, surtout quand on a des conditions de travail, on doit se déplacer.
Mais il y a une nuance dans votre cas. Mais il y a une nuance dans votre cas, Maître Bellemare. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé.
C'est ça.
Mais si l'employé d'Hydro-Québec, il se dote d'un logiciel qui brasse la souris dans son écran, il est payé pareil. Là. T'sais, s'il travaille, il est payé pareil, peu importe le nombre de dossiers qu'il va faire. Tandis que vous, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé.
C'est ça. On ne sait pas ce qui se passe derrière l'écran, finalement. Et c'est tu sais, quand tu as des réunions qui durent 3 heures, avec un petit break de 10 minutes, puis quelqu'un qui parle, qui fait un exposé en avant, qu'est-ce qu'il dit que l'autre écoute, là? Il y a 22 personnes sur l'écran, là. Qu'est-ce qu'il dit que le numéro 18 écoute vraiment, qu'il n'est pas en train de préparer son dîner ou qu'il n'est pas en train de préparer son prochain voyage ou qu'il n'est pas en train de faire sa liste d'épicerie pour la famille, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit qu'il est vraiment concentré sur la job? Dans une réunion en présentiel, tu as beau être 24 ou 25 autour de la table, tout le monde sait ce que tu fais, puis tout le monde sait que tu es concentré sur ta job. Puis même si la réunion est plate, c'est pas une raison pour faire d'autres choses pendant que quelqu'un fait un exposé.
Ouais. Énormément de dossiers de succession en fin de semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Entre autres, je regarde un article qui a été écrit vendredi dernier sous la plume de David Descoteaux. Il parle d'un homme qui a été 2 ans dans les paperasses de son père pour une succession hyper banale. Et qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué que ça? Pour le gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, d'accepter que quelqu'un décède, c'est pourquoi ça prend des mois et des mois?
Bien, toi, de ton vivant, Yannick, là, t'essaies d'éviter de parler à Revenu, au ministère du Revenu?
Bien, en fait, j'ai appris très rapidement que le ministère du Revenu, tant du côté du Québec que du Canada, c'est mes seuls 2 amis. Savez-vous pourquoi? Parce que même après ma mort, ils vont vouloir mon bien.
Oui, je comprends. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as tout à fait raison, mais le ministère du Revenu, on essaie d'éviter de le parler.
Oui.
On essaie d'éviter de parler à Retraite Québec. On essaie d'éviter de parler à un notaire, surtout quand ce n'est pas pour aller chercher des fonds. On essaie d'éviter tout ça de notre vivant. On aime ça, avoir une certaine liberté, pas trop être encadré, puis pas avoir 3-4 fonctionnaires à qui parler pour obtenir des permis de ci, des permis de ça. Mais dans un cas de décès, tous ces gens-là interviennent. Les ministères fédéral, provincial, est-ce qu'il y avait des revenus, est-ce qu'il y avait des biens, il faut transférer une bâtisse, il faut transférer une auto, donc on fait affaire avec Staclic puis la Société de l'assurance automobile. Alors là, on est pris avec des fonctionnaires à plein et on doit régler des questions d'impôts, des questions de disposition, des permis de ci, des permis de ça. Et là, quand tu appelles, tu n'as pas de réponse. Alors là, c'est le festival des appels non retournés. Mmh. 3-4 téléphones, des courriels non retournés, des documents qu'il faut obtenir. Et dans un des articles, on disait, par exemple, que dans le cas de Daou, là, qui a été recensé dans le Journal de Québec, je pense, le samedi dernier, le père est mort en 2023, puis ça a pris 4 mois juste pour obtenir un certificat de décès. 4 mois, c'est long, là. C'est comme si ça arrivait au mois d'avril, là. Comprends-tu? Alors, ça se multiplie et les exécuteurs testamentaires, les légataires, tous ces gens-là, le notaire, évidemment, c'est un temps fou avant de régler quelque chose. Et souvent, on va obtenir assez peu de résultats parce qu'une fois que tout va avoir été payé, Et là, que toutes les personnes vont pouvoir obtenir leur dû, ça va prendre beaucoup de temps. Il faut comprendre aussi qu'il y a des héritiers là-dedans. Il y a quelqu'un qui règle la succession avec le notaire, avec les pouvoirs publics, mais il y a les héritiers souvent qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui trouvent, eux, que c'est long, puis ils pensent que c'est le notaire qui ne fait pas sa job, ils pensent que c'est l'exécuteur qui ne fait pas sa job, alors que ce n'est pas le cas. C'est souvent des problèmes de délai qui sont occasionnés par les services publics. Alors, ça fait quoi? Ça fait de la chicane. Souvent, ça fait en sorte que les gens ne se parlent plus. Et c'est une épreuve du fait aussi qu'il y a un problème d'émotivité en relation avec une personne chère qui est disparue. Alors, les nerfs sont à fleur de peau et souvent, ça va briser des familles à cause de ces délais-là et de cette bureaucratie-là. Et les reportages récents montrent bien que c'est compliqué. Pour les notaires, c'est de plus en plus difficile. Les gens vivent de plus en plus vieux, mais ils finissent par partir. Et un décès dans une famille, oui, on a de la peine, mais en même temps, attache ta tuque pour régler la succession. Et de là, l'importance d'avoir un testament bien fait. Si tu as un peu d'argent, si tu as un auto, si tu as des enfants, moi, j'en reviens pas. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps des gens qui avaient 4 enfants. Il y avait 2 autos, un chalet, 4 roues, 1 motoneige, un condo, 1 maison, pas de testament. Moi, je me suis dit, c'est de l'irresponsabilité crasse. Tu veux vraiment avoir du trouble? Peut-être que pour toi, ce n'est pas important, mais pense à tes enfants, pense à ta femme quand tu vas décéder un jour, puis règle pour elle, fais-le pour elle, même si ça te tente de faire un testament, mais prends une décision. Qui va hériter de quoi exactement? Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'un testament qui est bien fait ne va peut-être pas éliminer tous les problèmes de bureaucratie puis de délai, mais va certainement faciliter les choses. Et si tes héritiers n'aiment pas la façon dont tu as disposé de tes biens, bien, c'est toi qui haïront et non pas entre eux. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est que les héritiers s'haïssent entre eux. Ouais. Pour ça, ça prend une disposition claire.
Ah, puis pour avoir jasé avec des notaires. Pour avoir jasé avec des notaires, Maître Bellemare, des fois 200$, ça crée de la chicane dans la famille.
Oui, des fois, c'est la coutellerie, puis le ballon de plage, puis la TV, puis l'ordinateur de papa. Mais il reste qu'un notaire, un testament notarié, c'est encore la meilleure solution. Et ça coûte quelques centaines de dollars. On est conseillé. On apprend des choses, on fait un testament, et le testament, normalement, on doit le reviser aux 2 ans parce que les conditions changent, les enfants vieillissent, on a acheté telle affaire, on a vendu telle autre, les relations matrimoniales ne sont pas aussi bonnes, on anticipe peut-être une séparation, donc il y a peut-être des choses à vérifier au niveau testamentaire. Donc, un bon testament, normalement, ça se revise aux 2 ou 3 ans.
Il y a des gens qui meurent puis ils n'ont pas d'héritier. Leur famille, les frères, les sœurs, c'est décédé. Leurs parents, c'est décédé depuis des années. Quand on meurt, c'est qui nous prend en charge? C'est l'État? Il y a l'État qui est là, qui nous prend en charge, qui fait nos papiers pour nous.
Non, quand on meurt, on appelle ça une succession ab intestat, c'est-à-dire sans testament. Et à ce moment-là, il faut quand même référer un notaire. La meilleure façon, c'est ça. Et lui, il va vous dire d'abord, mais voici ce que le Code civil prévoit. Parce que le Code civil prévoit que s'il y a des enfants, les enfants héritent. Si le conjoint hérite. Sinon, c'est des cousins, d'autres personnes qui héritent. Alors, c'est très compliqué. Les successions ab intestat. Et dans le Code civil, il y a plusieurs dispositions qui disent, dans telle situation civile, matrimoniale, avec ou sans enfant, bien, c'est telle personne qui hérite telle autre, alors ça serait compliqué d'en parler aujourd'hui. Ça finirait plus parce que les situations varient beaucoup d'une personne à l'autre, les gens mariés, les gens pas mariés, etc. Mais c'est pour ça que ça prend un testament, Yannick. Okay. C'est tellement plus clair. Mais à ce moment-là, on n'est pas obligé de se référer au Code civil, mais bien à la volonté notariée du défunt. Et c'est tellement plus simple. Et moi, j'encourage tous les Québécois, tous les gens, même si on est jeune, même si on a... À 35 ans, si tu as des biens et tu as un petit pécule dans le compte de banque, fais un testament. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de litige. Quant à savoir qui va hériter, ça va être beaucoup plus simple. Et tu vas aussi t'assurer qu'il y a des gens que tu n'aimes pas qui hériteront pas. Parce que si tu n'as pas de testament... Non, c'est vrai. Si tu n'as pas de testament, si tu n'as pas de testament, tu peux te retrouver avec des gens que tu n'aimes pas, avec qui tu es en brouille. qui vont hériter de certaines sommes d'argent. Puis ça, c'est le notaire va te renseigner là-dessus.
Ben, des fois, c'est ton ancienne femme hein, qui hérite.
Absolument.
Ta blonde avec Absolument. Qui tu as passé les 20-30 dernières années, elle n'a rien. Fait que c'est oui, l'importance de faire ouais. Un testament, je suis entièrement d'accord.
Et des fois tu as des contrats d'assurance où tu as prévu un bénéficiaire avec qui tu ne parles plus depuis 20 ans qui va hériter au moment, parce que tu n'as pas changé le bénéficiaire dans ta police, Coco. Là. Alors ça aussi, c'est à vérifier.
Oui.
Alors, un testament peut véritablement une bonne consultation puis un bon contrat. C'est un cadeau à faire à vos héritiers. C'est souvent un plus beau cadeau que le montant réel qu'ils vont toucher.
Exactement. Merci beaucoup, Maître Bellemare, pour tous ces éclaircissements. On se reparle la semaine prochaine pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. C'est bellemareavocat.ca. Bon lundi soir et à lundi prochain.